Rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau. Nouveau.
Ce soir.
Rebonsoir et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent ce soir. Du foot, la coupe est pleine, oui. À un mois tout rond comme un ballon avant l'ouverture de la Coupe du Monde de football 2018, ça se passera en Russie du 14 juin au 15 juillet, tout le monde est foot, en librairie et même dans les théâtres. La semaine foot a débuté hier avec la nomination d'un nouvel entraîneur pour le PSG. Demain, la France entière aura les yeux rivés sur Lyon pour la finale de la Ligue Europa contre l'OM, l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Et puis jeudi, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, annoncera aux Français le nom des 23 joueurs et réservistes qui iront batailler en Russie dans un mois. Bref, ce soir, c'est foot version géopolitique, culture et idées neuves avec quatre fous de foot. Éric Nolot, vous êtes essayiste, animateur de télé, écrivain et vous publiez « Quand la coupe déborde » chez Stock. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Pascal Boniface, vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et votre nouvel essai sportif « L'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde » paraîtra demain aux éditions Armand Collin. Bonsoir.
Bonsoir.
Brice Bossavi, vous êtes journaliste et membre de l'association Tatane, avec un nouveau livre, Tatane, 50 idées joyeuses pour changer le foot, publié chez Gallimard, ce sera jeudi prochain. Bonsoir.
Exactement. Bonsoir.
Et enfin, Jean-Michel Brochel, vous êtes rédacteur en chef adjoint du magazine de l'équipe, toujours sur le terrain et en kiosque tous les samedis. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Au énervé la suite, on chausse les crampons.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et mon Footix, qu'est-ce qu'il en pense?
Bah justement,
qu'est-ce qui est devenu Footix? Je l'adorais.
Non, je ne sais pas ce qu'il est devenu.
Il y a une fille Footix, qui est la mascotte de la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en France en 2019.
Et s'appelle comment?
Et je vais laisser mon confrère donner
son nom. Et le confrère de Tatane.
Je crois que c'est
Etix.
Etix. Terrible, je vois pas le rapport. Footix, je comprends, mais Etix. Bah,
c'est une espèce d'oiseau aussi, de volatile.
Une tentative de faire entrer l'éthique dans le football.
C'est peut-être ça. Avec un X, c'est
jamais trop tard.
Non, moi je comprends pas quand vous m'appelez Footix, Laurent, parce que j'ai toujours été un piètre spectateur de football. En fait, pour être tout à fait honnête, avant mes 10 ans, par exemple, quand un match passait à la télé, on avait beau me dire Benoît, attends la mi-temps pour aller aux toilettes, je partais toujours avant et donc je loupais, faut dire à force de banga et petite vessie, je loupais toutes les actions décisives, les meilleurs buts. Tout aurait pu changer au moment de mes 10 ans, sauf que là j'ai vécu un drame que beaucoup ont vécu à ce moment-là. C'était le 29 mai 1985. Il y avait Liverpool qui s'apprêtait à rencontrer la Juventus de Turin. Ça passe à la télévision, les hooligans sont intervenus et je n'ai que ces images-là en tête. Mais même encore aujourd'hui, quand je repense au foot, je pense à ça. Et d'ailleurs, quand mon fils, qui aime le foot, parce que c'est vraiment lui le fou de foot dans la famille, veut m'amener voir un match, j'ai encore aujourd'hui un élément, comme un peu de recul et la peur d'y aller. Je leur en veux, moi, ces hooligans qui m'ont empêché de partager, comme vous tous autour de la table, la fête du foot. Mais grâce à mon fils, qui aime Chelsea et Barça, allez comprendre pourquoi. Ça, c'est le problème de la mondialisation du foot. Pascal Boniface, vous nous expliquerez sans doute pourquoi. Grâce quand même à la passion qu'a mon fils pour Chelsea et Barça, eh bien, je vois l'effet que peut le foot peut faire sur un spectateur qui aime ça. Quand l'équipe rate le but, la tête de mon fils, il faudrait le filmer. Donc moi, cet été, je vais aller à Barcelone, on va aller forcément au Camp Nou, le stade du Barça, et je vais voir la tête de mon fils. Je pense qu'il aura un peu la tête que vous avez tous eue quand vous avez pu aller sur les lieux du foot. Mais donc, moi, j'ai pas d'équipe particulière. Mon fils, oui, vous, Éric Nolot, par exemple, votre première équipe, celle qui vous a fait vibrer, transformer, qui a permis d'aller ensuite suivre comme ça cette histoire du foot.
Question de génération, Saint-Etienne.
Ah ben c'est ma génération.
Saint-Etienne parce
que... Moi c'était les vignettes Panini.
Oui, ouais. C'est-à-dire que quand Saint-Etienne a commencé à briller en Coupe d'Europe, c'était une période tragique pour le football français. C'est-à-dire que l'équipe nationale ne se qualifiait jamais pour aucune compétition européenne ou mondiale. Et si on avait une équipe qui passait un tour en Coupe d'Europe, c'était un jour férié dans toute la France. Donc tout d'un coup, il y a eu cette épopée tout d'un coup. Donc moi, Saint-Etienne, et vous parliez du traumatisme du Hezel, mais le traumatisme, c'est même pas le France RFA de Séville. Moi, le traumatisme, c'est le Liverpool Saint-Etienne. Le match retour, Saint-Etienne avait gagné 1-0, ils ont perdu 3-1 au retour. Et moi, j'ai porté le deuil Mais vraiment, j'étais déprimé, mais j'avais 16 ans pendant 15 jours. Et chaque fois que je repense à ce match, je suis encore déprimé. Je porte encore la peine de ce match. Mais rien, même l'équipe de France, même mon cher Marseille, parce que je soutiens Marseille, Saint-Etienne. En France, je suis comme les joueurs de casino, je répartis mes jetons. Aucune autre équipe ne m'a donné cette émotion parce que c'était au bon âge, 15 ans, 16 ans, et vous ressentez comme votre fils les choses de manière vraiment la plus intense, la plus violente. Donc Saint-Etienne, évidemment.
Pascal Boniface, vous, votre équipe
de cœur.
Je suis
un peu plus âgé que Eric, apparemment, parce que moi j'ai commencé avec l'équipe de France qui parlait toujours. 1-0 contre la Norvège à Strasbourg, 5-0 contre la Yougoslavie, les frères Lech qui jouaient très bien, mais qui perdaient toujours. Et donc, je suis parti comme un loser avec cette équipe de France que j'aimais bien quand même et dont j'espérais qu'elle fasse un peu mieux. On va en Angleterre, on se fait bananer tout de suite, etc. Donc voilà, et puis après, effectivement, il y a eu d'autres respirations. Je pense qu'un peu un de mes meilleurs souvenirs, c'est peut-être France 84, parce que on se réveille justement du traumatisme de l'équipe de France qui perd toujours et du traumatisme de Séville, et donc c'est une double récupération.
Jean-Michel Brochen.
Oui, enfin Saint-Étienne, effectivement, c'est marrant d'ailleurs ce que Eric dit, c'est soit plus Liverpool que la finale de 76.
Oui, plus.
Et en fait. De manière un peu étonnante. Moi, c'est plus Liverpool. Moi, c'est les premiers. Les premiers émois un petit peu, et puis mon équipe sinon c'est plus culturel et régional, c'est le Stade Brestois d'ailleurs qui a d'ailleurs perdu son match ce soir de barrage. Voilà.
Brice, vous savez, là, on saute de génération.
On saute de génération.
On saute tellement
merci,
de génération
non, que, tout,
et de région peut-être aussi.
Totalement. Je vais casser toutes ces équipes légendaires puisque je suis supporter depuis tout petit des Girondins de Bordeaux. C'est intéressant parce qu'on parlait de la mondialisation et du fait que votre fils était pour Chelsea, le Barça. Et c'est vrai que moi, étant originaire du Pays Basque, la grande équipe, quand on n'aimait pas le rugby et qu'on aimait le foot, c'était les Girondins de Bordeaux. Et je pouvais pas voir les matchs, c'était pas une équipe assez grande pour passer à la télé sur TF1 ou quoi. Et du coup, j'ai des souvenirs d'ouvrir le Sud-Ouest et de découvrir à 7-8 ans le résultat. Et une équipe qui perdait souvent. Du coup, quand elle gagne, on est encore plus heureux que quand on est supporter du PSG ou de l'OM.
Bon, alors on va rentrer justement dans l'actualité. OM et PSG sont dans l'actualité. Demain, c'est l'Olympique de Marseille qui a rendez-vous avec l'Atlético de Madrid pour la finale de la Ligue Europa. Les Fossins ne s'étaient plus qualifiés pour une finale de Coupe d'Europe depuis 2004. On a des chances ?
Si le football se jouait sur le papier, non. Parce que l'Atlético est de toute évidence une équipe supérieure, une équipe qui, dans les dernières années, a une expérience bien plus grande que l'OM en Coupe d'Europe. Ils sont même arrivés deux fois en finale de la Ligue des Champions. Seulement, le football ne se joue pas sur papier. Là, c'est une finale, donc c'est sur un match, ce qui me paraît augmenter les chances des Marseillais. Et puis, ce qui se passe autour de mon cher Marseille cette année est tellement irrationnel, c'est-à-dire qu'ils sont portés par une forme de... Voilà, il y a une générosité, il y a une entente, et puis surtout il y a un soutien populaire qui est, c'est comparable. Là, la grande différence avec Paris, où Paris n'arrive pas à être cette équipe populaire dans sa propre ville. Marseille là, donc je pense qu'ils peuvent sur un match renverser tous les pronostics. Après, s'ils jouent comme contre Salzbourg, tous les désespoirs sont permis. S'ils jouent comme contre Leipzig, tous les espoirs sont permis. Mais il faut y croire, bien sûr.
Et du côté du PSG, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Thomas Tuchel,
Tuchel, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il peut apporter au club, en fait ?
Bon, ils ont essayé...
Jean-Michel Brochen.
Ils ont essayé un Italien avec Ancelotti, un Français, un Espagnol avec... qui a encore un match à... Ils essayent un Allemand, peut-être plus de rigueur. Thomas Tuchel a eu une expérience à Dortmund qui a été assez réussie sur le plan du jeu, sur le plan du spectacle, sur le plan des résultats aussi. Voilà, ils espèrent.
Vous en désabusez.
Non, pas du tout. Non, on ne connaît pas Tuchel, on le connaît pas du tout en France. On ne sait pas ce qu'il peut donner dans une équipe de stars.
On dit qu'il a un caractère un petit peu compliqué.
Oui, après,
mais c'est compliqué parce que. D'abord, il arrive. Alors évidemment, il a une petite réputation, mais enfin, il a un palmarès à peu près vierge et face à des terreurs de vestiaire comme sont tous les joueurs parisiens, et il va falloir s'imposer parce qu'ils vont le regarder un peu de haut. Ensuite, il y a quand même quelque chose qui est un peu étrange dans cette politique du PSG, c'est de tout miser sur l'entraîneur. Comme si l'entraîneur allait d'un coup de baguette magique transformer la culture du club. Il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer. Il y a quand même l'état d'esprit des joueurs. Les joueurs parisiens, chaque fois qu'ils ont un grand match à faire, le match où vraiment il faut tout donner, ils passent à travers. Il y a quand même quelque chose. Et il y a surtout pas cet engouement populaire qui fait que des joueurs et une équipe en général jouent au-dessus de son niveau, se transcendent et obtient des résultats formidables. Ils ont régressé, les Parisiens, au fil des années.
Je suis assez d'accord sur l'état d'esprit. C'est vrai, je trouve que c'est ce qui a beaucoup manqué au PSG, notamment cette saison. Je pense qu'il n'y avait pas d'état d'esprit comme celui qu'on a pu voir à Marseille, qui les a portés quand même bien au-delà de ce à quoi ils auraient pu rêver en début de saison. Sur le côté populaire du Paris Saint-Germain, je suis pas du tout d'accord avec vous. Je pense que le PSG a quand même un soutien. C'est un club qui n'existe pas que depuis quelques années. C'est un club qui a quand même réussi à transcender des, évidemment, il y a eu beaucoup de problèmes de supporters parce qu'il y avait des tribunes qui étaient très opposées. Il y a eu des morts, dans le périmètre du Parc des Princes. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sorte de gentrification un peu du public. Voilà, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même un vrai soutien populaire auprès
du PSG. Oui, puis il amène du monde. C'est parce que le Parc des Princes est plein à chaque fois, quelle que soit l'heure du match. Et quand il va à l'extérieur, il y a du monde. Par contre, ce qu'on reproche au PSG, c'est d'être performant au niveau national et de ne pas l'être suffisamment au niveau international. Saint-Etienne est devenu très populaire dans tout le pays quand ils ont gagné des matchs au niveau européen. Lyon a été pas très populaire parce qu'ils ont gagné 7 championnats de suite en France sans aller très loin dans les compétitions internationales. Et si Marseille a transcendé le pays, c'est aussi parce qu'ils sont allés deux fois en finale de la Champions League en 91-93. Donc en fait, pour avoir suscité un engouement qui dépasse l'assise propre d'un club au niveau régional, il faut avoir des résultats internationaux.
Brice Possavi ?
Je sais
parce
pas.
Parce qu'il n'y a pas que les Girondins. Ah bah voilà, ça y est. Il n'y a pas que les Girondins, Brice Possavi.
Il y a les Girondins qui ont fait une finale de Coupe d'Europe aussi.
Évidemment,
en 96.
Sur le nouvel entraîneur.
Le problème, c'est
d'accord,
que
c'est vraiment l'enthousiasme autour de la table.
Le problème, c'est que
vous avez soufflé.
Le PSG, c'est j'ai l'impression qu'il y a plus un problème qui est tout autour et qui concerne pas l'entraîneur en fait, qui est plus au niveau de la direction, qui parfois met plus ses joueurs au-dessus des entraîneurs. On le voit notamment avec Neymar. Je pense qu'il y aurait besoin en fait de créer une vraie pas identité de club parce qu'il y en a une, mais mettre une institution au-dessus en fait du club et que on donne les pleins pouvoirs en fait à Tourelle pour qu'il puisse ensuite imposer un jeu, que les joueurs sachent qu'ils sont en dessous de l'entraîneur.
Mais les pleins pouvoirs avec un joueur qui s'appelle Neymar, c'est pas possible parce que c'est au minimum le partage du pouvoir. Neymar, c'est un état dans l'état.
Voilà. Bien sûr, mais ça, au Real Madrid ou au Barça, il y a une espèce d'égalité entre Messi et son club et Ronaldo et son club.
C'est vrai.
Et c'est vrai que c'est ça qui manque, je pense, au PSG qui est encore un club jeune en termes depuis l'ère qatarie.
Alors tout de suite, retour en 72, c'était presque l'époque d'ailleurs de Saint-Etienne, avec une des plus belles chansons de Nick Drake, The Place to Be. C'est facile, c'est ici, sur France Inter. When I was younger than before, I never saw the truth hanging from the door. Now I'm only seeing face to face. Now I'm only gotta get a clean place. When I was green, greener. Where flowers grow and the sun shines still. Now I'm darker than the deepest sea. Just hand me down, give me a place to be. Strong, strong in the sun.
23h32 dans le NRV sur France Inter. On ne reste pas sur la touche, on part sur le terrain.
Bienvenue de l'Afrique du Sud.
Le nouveau rendez-vous.
We welcome you home.
Sur France Inter.
We're all Africans home.
Eh bien voilà, c'est fini. Il n'y a pas eu de miracle. L'équipe de France s'est même inclinée 2-1 cet après-midi face à l'Afrique du Sud.
Un parcours en tout point désastreux sur et en dehors du cadre.
Mais ça, c'était en 2010, le mondial en Afrique du Sud au NRV. On est sur le terrain ce soir pour parler foot avec Jean-Michel Brochen du club de l'équipe, Brice Bossavi du collectif Tatane, Pascal Boniface, coach à l'Iris, et le buteur Eric Nolot. Eric Nolot, on vient d'entendre un écho de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. Une Coupe du Monde peu glorieuse pour la France. Vous y consacrez un chapitre entier dans votre livre « Quand la Coupe déborde ». En quoi cette séquence de l'histoire du foot français méritait-elle, selon vous, une séquence entière comme ça?
Bah, désastre intégral, c'est-à-dire désastre sur le terrain, désastre ensuite de communication, et puis la grève, quoi. La grève de 23 millionnaires sur le continent le plus pauvre, où on voit que plus personne ne contrôle plus rien, ni la fédération, ni même la présidence de la République essaye d'agir à distance, le ministère des Sports. Il y a 23 personnes et un peu plus même en roue libre, avec des noms d'oiseaux. On va pas répéter ici, mais enfin, ce qui est sorti du vestiaire, c'était quand même impressionnant de voir à quel point des joueurs pouvaient insulter un entraîneur. On n'imagine pas ça avec, je sais pas, Mourinho ou Ancelotti. Enfin, on voyait que c'était pourri. Donc, ce qui s'est passé, c'était la révélation d'une lente dégradation. Et c'est vraiment le football français, ce jour-là, le jour de la grève, a touché le fond. Et on a mis des années et des années à s'en remettre. Pour la première fois, il y a eu un phénomène vraiment de dégoût des gens pour leur équipe nationale. Et vraiment, il y a eu un très très lent patient travail de reconquête de l'opinion publique et du public. Bon, là, on est vraiment sorti de cette séquence. Vraiment, quand je reviens là-dessus, c'est juste parce que ça a été une des pages les plus noires du football français. Mais on a réussi à la surmonter, c'est pas rien.
Mais c'est intéressant quand même l'histoire de l'Afrique du Sud, et notamment de cette Coupe du Monde. Parce que pour vous, Pascal Boniface, vous en parlez aussi dans votre livre, vous dites que c'est un cas intéressant et particulier en ce qui concerne le football et la géopolitique. Cette Coupe du Monde-là, en Afrique du Sud, en quoi là, on voit bien que football et géopolitique sont mêlés.
Dans toutes les Coupes du Monde, alors celle-là par rapport à la catastrophe qui a lieu, c'est le juin 40 du football français. Parce que c'est la catastrophe sportive, morale, de communication, effectivement, on mettra. Et c'est la fête pour tous ceux qui détestent le foot. Pour tous ceux qui détestent le foot. Ils sont ravis de ce qui se passe parce que...
J'ai jamais été aussi heureux.
Voilà, parce que ils se disent, voyez, vraiment, on a raison de pas aimer le foot, etc.
Ouais. Les gens testés, bon, c'est bien mieux.
Et donc, effectivement, en quoi c'est intéressant géopolitiquement? Parce que c'est enfin une Coupe du Monde quand même sur le continent africain, qui ne l'avait pas encore reçu. C'est une sorte de multipolarisation du football. Pour certains, les Coupes du Monde ne devraient aller que dans les pays occidentaux, parce qu'on est mieux que les autres, et il faudrait jamais aller nulle part, ce qui n'est pas le cas. Et donc, en ça, c'était intéressant. Mais effectivement, et rappelez-vous, tout ce que l'on disait avant la Coupe du Monde, que ça se passerait mal, qu'il y aurait des viols en série, que tout le monde se ferait piller, que les stades seraient pas prêts, qu'il n'y aurait pas de téléphone qui marcherait, etc. Mis à part pour l'équipe de France, ça s'est bien passé. Mais pour nous, ça a été la catastrophe.
Mais on dit la même chose aujourd'hui avec la Russie par rapport à la Coupe du Monde, en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir de la drogue dans les tribunes. »
Des viols en série.
C'est un enjeu très important pour Vladimir Poutine, effectivement. Ouais, donc qui a mis des moyens, mais absolument considérables, dans l'organisation de cette Coupe du Monde. Hein. Pour donner juste un exemple, il y a un stade à Saint-Pétersbourg, je crois, qui a coûté 700 millions d'euros. Ça fait 10 ans qu'ils sont en train de le construire. Donc,
ils ont bien préparé leur coup.
Voilà, donc bon, ils ont mis des moyens considérables. Il va y avoir effectivement une sécurité terrible. Et voilà, et c'est un enjeu très très important pour Poutine, sur son image, un peu sur sa capacité, la capacité de la Russie à être un pays moderne. Parce que Sotchi en 2014, c'était un petit village qui est devenu une immense station de ski, une immense station de vacances avec des moyens considérables, mais c'était quand même localisé dans un seul endroit. Aujourd'hui, on va de l'Oural au, à Moscou.
Oui, mais ça, c'est la différence entre la Coupe du Monde qui est sur 10 ou 12 villes et les Jeux Olympiques qui sont sur une seule ville.
Ça montre un peu plus que,
pour
ce que c'est un pays.
Pour tout dirigeant, je veux dire, c'était pareil pour Dilma Rousseff au Brésil, c'était pareil pour Hollande quand on a fait le championnat des nations. Je ne sais pas qui sera président en 2024, mais pour le président, ça sera l'enjeu essentiel de réussir les Jeux Olympiques. C'est pas propre au type de régime comme l'est le régime de Poutine. Pour tout dirigeant qui reçoit la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, c'est un enjeu essentiel
de communication,
de rayonnement, que tout se passe bien, qu'il n'y a pas d'attentat, et de montrer le bon côté du pays. Et disons que je ne voudrais pas qu'on tombe dans le côté, il y a des pays non démocratiques qui utilisent le sport, et des pays démocratiques qui
utilisent tous le sport.
Non, je ferai la différence. Par exemple, il n'y a pas d'équivalent quand même dans l'histoire de la Coupe du Monde, de la Coupe du Monde en Argentine. En 78.
34 en Italie.
Oui, 34 en Italie, mais c'est un régime fasciste. Donc c'est deux exemples. Un régime fasciste et puis une junte militaire où, en 78, la junte militaire avait décidé que l'Argentine gagnerait la Coupe du Monde. Et tous les moyens ont été utilisés. Il y a un match qui a été acheté, c'est bon, documenté depuis longtemps. Tout a été fait, des petits moyens. Bon, voilà, contre le Pérou, c'est même un accord d'État à État. Donc ils avaient acheté carrément le Pérou lui-même, pas seulement l'équipe péruvienne. Donc il y a quand même... Pour les pays totalitaires, il y a un enjeu encore supplémentaire. Mais à partir du moment où une compétition est regardée par des milliards de gens à travers le monde, ça devient un enjeu politique évident.
Il y a un sondage qui est paru fin avril. 7 Français sur 10 craignent une généralisation des actes racistes durant les matchs de la Coupe du Monde. Vous partagez cette crainte, tous ?
En Russie ?
Ouais.
C'est l'enjeu essentiel pour Poutine parce que
Pascal Boniface.
Les hooligans, ils sont contrôlés, il n'y aura pas de soucis. Le terroriste, il n'y a pas de risque zéro, mais il n'y a pas eu l'attentat à Sochi, il n'y en a pas eu à l'Euro 2016 et il n'y en a pas eu non plus à Rio, etc. Il y a deux enjeux essentiels pour Poutine en termes de rayonnement, c'est où va aller l'équipe nationale, est-ce qu'ils vont passer le premier tour ou non, et c'est quand même un petit peu gênant quand vous organisez et que vous ne passez pas le premier tour. Et ça aussi parce que les cris racistes dans les tribunes contre les équipes africaine, parce que ça serait complètement contradictoire avec la façon dont Poutine veut présenter son pays et que le risque est réel. Et donc, on peut penser qu'il y aura suffisamment de caméras pour dissuader les gens de faire ça.
Il y a le terrorisme, en effet, donc là, on peut faire confiance sur eux. Mais le hooliganisme, ça se présente plutôt pas mal, parce que les Russes vous expliquent que les hooligans russes se tiennent surtout mal à l'extérieur. Parce que chez eux, les méthodes de la police russe ont un côté légèrement dissuasif. Ils ont une manière de traiter ces jeunes gens un peu excités de manière extrêmement radicale, et ça leur passe le goût de revenir. Tandis que quand ils sont en France, en Angleterre, là, ils s'en donnent à cœur joie.
Donc, on se souvient que pendant l'Euro 2016, effectivement, les incidents à Marseille,
c'était terrible.
Avec les Anglais, cette fois-ci, avaient été provoqué par les Russes, qui étaient venus se faire les Anglais
chez nous.
Chez nous, quoi.
Pas chez eux.
Réseau sa vie.
Il y a quand même quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'on parle d'une démonstration de force en termes géopolitiques, etc. Mais sur le plan sportif, par contre, l'équipe de Russie, comme on en disait un peu, est vraiment pas bonne du tout, en fait.
Vous êtes dingue de dire ça. Vous savez que la Russie a les moyens de vous faire plier.
Ah bah, les chiffres et les faits parlent.
Ils pourraient être éliminés dès le premier tour.
Complètement, mais c'est.
Enfin, ils sont dans le groupe le plus facile.
Ils sont dans une poule assez facile.
Le tirage au sort a bien fait les choses.
L'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Uruguay.
Mais il y a eu des changements d'entraîneurs. Donc, même s'il y a une démonstration de force en termes d'organisation, l'équipe peut se faire humilier à domicile dans le propre pays, ce qui serait assez ironique.
Il y a une suspicion par rapport à ce tirage au sort ? Je vous voyais dubitatif tous.
Bah, en tous les cas,
Pascal Boniface, ça tombe bien, c'est ça ?
Oui, ça aurait pu plus mal tomber, mais en même temps, c'est pas non plus un. Bon, je veux dire, il n'y a pas de groupe facile, et en tant que Français, on le sait, parce que en 2002, on vous a dit c'est le groupe le plus facile, on peut forcément passer, et on n'est pas passé le premier tour.
Donc, et là, pour la France, alors, ça s'annonce comment ?
On est encore tombé dans un groupe relativement aisé.
À la baraka des champs.
Mais voilà. Pour jouer contre l'Australie, le Pérou, justement, on parlait du Pérou et.
Ouais, mais moi j'ai. Oh, mais le Pérou, il faut l'acheter, hein, c'est facile.
Le Pérou, on peut l'acheter. Voilà, ils ont changé complètement, je tiens à le dire à nos amis péruviens.
Ils sont
nombreux à nous écouter, on le sait peut-être pas assez. Non, mais de toute façon, il faut expliquer à ceux qui seraient pas familiers du football que c'est pas un tirage au sort intégral. Donc, il y a une protection, de toute façon, des grandes équipes, c'est un tirage au sort orienté. Moi, depuis, en effet, 2002, je n'utilise plus l'expression de groupe facile parce que.
L'expérience.
Ce que ça pouvait donner. Oui, oui.
En 2022, pour la première fois,
la Coupe du Monde aura lieu dans un pays arabe et musulman, le Qatar. Le choix a été très critiqué. Comment vous regardez cette décision, tous ? Pascal Boniface.
Alors, c'était très critiqué parce que le Qatar n'a pas de culture footballistique et que c'est un petit pays.
Ils ont quand même
plus comme c'est un pays arabe,
culture financière du foot.
Et que comme c'est un pays arabe du Golfe, il est susceptible d'être plus critiqué par les gens qui n'aiment ni le foot ni les Arabes. Donc, ça fait beaucoup, effectivement. Je pense que l'objectif
de la FIFA... Je croyais que tout le monde aimait le foot.
Oui, bon. Moi, je croyais que tout le monde aimait les Arabes.
Il y a des gens qui n'aiment ni l'un ni l'autre.
Bon, ah bon ça, alors, on ne veut pas les connaître.
Faut vraiment le présenter. Ah oui. Je n'ai jamais croisé, vraiment.
Et donc, en fait, alors, par rapport à la contestation de ce choix, il y avait effectivement une logique de la FIFA, c'est d'emmener le foot là où il n'a pas été. C'est-à-dire, le foot veut conquérir le monde, et si on veut, c'est parmi les civils qu'on fait les militaires, et si on veut que le foot s'étende au niveau mondial, faut aller là où on n'est pas allé. L'Euro 2012 a été donné à l'Ukraine et la Pologne parce que on n'avait pas été dans ces pays-là. La Russie, le Qatar, c'était ça. Il y a aussi un autre argument qui a joué, c'est la qualité de la signature de l'État. C'est que si le Qatar et la Russie s'engagent, vous êtes sûr que les stades seront construits. Ouais. Quand vous avez une double candidature Belgique-Pays-Bas et que la Belgique n'a pas de gouvernement depuis un an, ou Espagne-Portugal et que l'Espagne est en faillite, c'est un peu moins sûr que toutes les infrastructures soient là.
Non, mais c'est une rigolade de donner la Coupe du Monde au Qatar, c'est une rigolade. Parce que tant qu'elle a donné à un pays arabe, ça c'est très bien, pas la première fois un pays arabe, mais donnons-le à un pays arabe qui a une grande culture footballistique.
Ah, le Maroc était... Non,
et ça, oui, ça ne manque pas, il y a le Maroc. Alors après, il y a des problèmes de sécurité, en effet. L'Égypte a une grande culture, bon, etc. Après, bon, en effet, les stades vont être construits à l'heure, mais enfin, à quel prix? On sait très bien qu'il y a une pratique du travail qui est quand même très proche de l'esclavage, quand même, avec beaucoup de gens qui meurent à la tâche. Hein, c'est quand même un peu emmerdant. Et ensuite, ceux qui suivent les bulletins météo savent qu'il fait très très chaud au Qatar. Donc, je crois que la solution qui va être trouvée, c'est de faire la Coupe du Monde en milieu de saison. Parce que c'est une hérésie totale. Les championnats vont s'arrêter.
Il me semble que
C'est des projets de stades climatisés. Il fait 50 degrés.
Au départ, les stades climatisés, ils ont décidé de jouer en hiver, effectivement, ce qui va être une rupture par rapport à la saison.
Tout le monde signe l'accord de Paris. Hein, il faut absolument l'écologie, c'est très important. Et puis là, on donne l'organisation à PIC qui va être obligé de réfrigérer ces stades. Et en effet, la solution qui est proposée maintenant, c'est en hiver, c'est-à-dire c'est un peu au mépris de la santé des footballeurs qui vont avoir des saisons infernales.
Ce qu'il faut souligner, c'est que l'attribution au Qatar, qui était d'ailleurs concomitante à celle de la Coupe du Monde en Russie, c'est la dernière attribution de l'ère Blatter. La prochaine attribution de Coupe du Monde sera importante. Il y a le Maroc qui est en lice, qui est opposé donc à une candidature tripartite avec les États-Unis, le Mexique et le Canada, gouverné bien entendu par les États-Unis. Et on a vu récemment, Pascal en parlera peut-être, les déclarations de Donald Trump qui mettaient une pression incroyable sur les votants africains notamment, en disant que voilà, les pays qui n'aidaient pas la candidature américaine, il n'y avait aucune raison que les États-Unis les aident, notamment dans le cadre onusien. Bon,
voilà. Trump a fait avec la Coupe du Monde ce qu'il a fait avec l'Iran. On arrête tout et si vous n'êtes pas content, on vous punit. Jamais dans l'attribution, il y a toujours eu des jeux d'influence, il y a toujours eu des aides, etc.
Mais là, au moins, c'est
du
clair.
Clientélisme. Mais là, c'est vraiment le big stick. C'est si vous votez pas pour moi, il y aura des gros problèmes. Et quelque part, quand même, il y a, puisqu'on parlait d'un pays arabe, du Maroc, qui est quand même un pays qui est à la fois africain, arabe, qui est proche de l'Occident, tous les temps musulmans. Je trouve quand même pour le moins paradoxal que les États-Unis, qui crachent à la figure du monde avec Donald Trump, veuillent recevoir le monde. On fait un mur contre le Mexique et on veut co-organiser avec le Mexique. Mmh. On dit que les pays africains sont des pays de merde et on veut les inviter à la Coupe du Monde.
Ouais. Ça s'appelle l'ouverture d'esprit.
Et on fait un Muslim ban. Et si des équipes musulmanes...
Il va peut-être interdire les équipes musulmanes.
La France a déjà déclaré que la France votera pour le Maroc.
Ouais. Ça, c'est déjà ça gagné. 23h45, vous écoutez le NRV et vous êtes sur France Inter. I want you to stay, don't go away now. I
Your Love, c'est vrai, il le mérite, notre amour, Curtis Harding, le meilleur crooner néo-soul de ce début du 21e siècle. C'était dans le énervé.
Rendez-vous.
Voilà comment tout a commencé. Je me suis fait virer du foot.
Ça a dû être super dur quand tu t'es fait suspendre. On oublie quelquefois que tu n'es qu'un homme.
Je ne suis pas un homme, je suis Cantona.
On
va
l'arbitre.
Mais voilà l'arbitre, hein. On va le foutre à poil, l'arbitre. Avec son sifflet dans le cul. Comme ça,
le nouveau rendez-vous.
As-tu déjà fait partie d'une équipe?
Laurent Goumard.
C'est magnifique.
Sur France Inter.
De faire partie d'une équipe.
Eh bien, on refait le match ce soir au niveau rendez-vous, mais parce que vous êtes sur France Inter, on y ajoute une petite dose de culture avec les journalistes Jean-Michel Brochen et Brice Bossavi de Tatane, les observateurs et commentateurs aiguisés Pascal Boniface et Eric Nolot. Eric Nolot, une chanson de Philippe Catherine, hein, signée pour le club de foot Les Herbiers, des extraits de films Looking for Eric de Ken Loach, Amour l'arbitre de Jean-Pierre Mocky et Coup de tête de Jean-Jacques Haneau, le film de Haneau d'ailleurs, à vous lire et d'une franche caricature.
Ah oui.
Ah ouais? Vous n'avez pas aimé?
Le film a ses mérites, mais d'abord il faut quand même une bonne dose de crédulité pour croire que Patrick Devers est un joueur de haut niveau. Ils essayent de réduire au maximum les scènes où il joue, mais bon, moi j'ai besoin d'y croire un petit peu. Et quand même le portrait que fait Jean-Jacques Haneau de cette ville qui est très inspirée d'Auxerre, club et de la ville d'Auxerre, c'est vraiment une grosse bande de beaufs pourris. Enfin, vraiment, je trouve que ça manque totalement d'empathie sur le milieu du football. Non pas qu'il n'y ait pas de bourrins dans le football, hein. Non, il y a beaucoup de bourrins, mais dans les petites villes comme ça, il y a énormément de dévouement autour du club qui symbolise la ville. Il y a énormément de véritables passionnés qui vont chaque fois au stade. Le cas, c'est Lens. Il y avait un très très beau spectacle.
Ah, stadium. Super. Donc il faut aller au théâtre.
Mohamed El Khatib.
Oui. C'était quand même autre chose parce qu'il faisait monter sur scène les véritables supporters de Lens.
50 supporters du Racing.
Ça se terminait dans une fiesta. Moi, j'ai passé une soirée formidable et j'ai retrouvé ce que j'aimais dans le foot. Jean-Jacques Haneau a voulu faire une caricature qui a les mérites de la caricature, mais qui a les injustices de la caricature.
Donc il faut aller au théâtre pour voir quelque chose qui se dit bien sur le foot. Vous l'avez tous vu ce spectacle?
Bien sûr. On a même en fait organisé un tournoi de foot avec l'association Tatane devant le théâtre de la Colline lors d'une représentation.
Il y avait la place?
Dans une rue, c'est le foot, on met deux pulls et on joue.
Pascal Boniface, vous l'avez vu cette pièce?
Non, j'ai pas vu, non.
Stadium, c'était donc une sorte de théâtre du réel, théâtre documentaire avec la ville des 50 supporters.
Il y avait une vidéo d'un des capos, c'est-à-dire un des meneurs, cheerleader dirait les Américains, qui a passé toute sa vie dans le foot avec les regrets parce qu'il a vraiment sacrifié tout, femme, carrière professionnelle, avec des anecdotes incroyables. Et moi, j'avais les larmes aux yeux de voir un pareil investissement, un pareil amour du club, amour désintéressé, il gagne rien, il a même plutôt perdu. Donc vraiment, j'en veux un peu à Jean-Jacques Haneau pour cette charge de coup de
tête. Alors allez au théâtre pour aimer le foot.
Mais oui.
Jean-Michel Brochen, vous qui à l'équipe magazine observez un petit peu tous ces mouvements, que le foot entre comme ça au théâtre, quand Mohamed El Khatib fait ce spectacle, par exemple, Stadium, c'est un cas particulier où vous avez vu le foot quand même rentrer de plus en plus dans des secteurs comme le...
Il y a Massimo Furlan aussi
qui va faire un match, le fait de faire
une émission sur la culture foot, déjà aujourd'hui c'est presque un acquis, voilà. Oui. On ne pose pas de problème. Il y a une vingtaine d'années, ça aurait été beaucoup plus compliqué, il n'y aurait pas eu cette émission. Donc forcément les choses ont évolué, notamment depuis la victoire de la France en Coupe du Monde en 1998. Avant il fallait se battre pour considérer que le foot puisse être une sorte de fait culturel. Aujourd'hui c'est un peu... C'est un matériel qui intéresse les artistes, les écrivains, les cinéastes...
Et les jeux politologues, ça n'a pas été évident pour vous, Pascal Boniface?
Il fallait se planquer. Hein, c'était, Pascal Boniface. On affichait lui, mais on planquait pour lire l'équipe, parce que c'était vraiment... Il fallait faire son coming out pour dire qu'on aimait le foot. Et effectivement, moi, avant la Coupe du Monde 98, je suis allé voir deux éditeurs pour dire je voudrais faire un bouquin sur football et relations internationales. Ils m'ont rionné en disant, soit tu fais un bouquin sur football, soit tu fais un bouquin sur relations internationales, mais il n'y a aucun rapport entre les deux.
Ah ouais.
Et donc là, quand on voit la Coupe du Monde en Russie, le Qatar, la Chine, etc., on se dit, il y a peut-être quand même un petit rapport. Et donc, cet élitisme, et finalement, le film de Jean-Jacques Haneau reflète aussi cela. Il y a quand même eu, pendant très longtemps, un mépris social par rapport au football, un mépris de classe, finalement, par rapport au bourrin, par rapport à la province, par rapport à tout ça. C'était quand même le cerveau contre le muscle. Aujourd'hui, il est plus admis, ou il est moins contesté, qu'on peut aimer le foot sans être débile, et qu'il n'y a pas vraiment ce rideau de fer entre les deux.
Moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est tout petit peu plus compliqué que ça. C'est au tout début du football, il n'y avait pas cette séparation. Le football était joué par des intellos, des journalistes, des écrivains. Ils sortaient du terrain, ils écrivaient. Ensuite, avec l'ère de la professionnalisation, les deux univers ont complètement dérivé, se sont éloignés. Et en effet, à l'occasion de 98, il y a eu un rapprochement. Et maintenant, mais n'en déplaise à ceux qui veulent nous envoyer au théâtre plutôt que voir un match de football, moi, deux des plus grands livres que j'ai lus dans ma vie, c'était des livres sur le football. 44 jours de David Peace et Chant furieux de Philippe Bordas. C'est d'immenses livres de littérature purement sur le football. Donc il y a vraiment carton plus jaune. Et carton jaune de Nick Hornby qui est vraiment voilà. Et en plus c'est sur Arsenal.
Football Factory de John King, on peut en citer. J'ai ramené de Jean-Philippe Toussaint, Football, tout simplement, qu'il a écrit il y a deux
très
ans, un livre magnifique sur ses souvenirs de la Coupe du Monde au Japon. Et bon, effectivement, sur le récit, l'histoire du récit a toujours été propre au sport. On pouvait se retrouver, on pouvait considérer que la littérature pouvait s'approprier un peu le football. C'est vrai que pour le cinéma, ça a été plus compliqué. Il n'y a pas eu de grands films de cinéma.
Non, par rapport à la boxe, c'est rien. La boxe, c'est un grand sport cinématographique, pas le football.
Il y a eu un petit film récemment qui était pas mal du tout. C'était les Surfaces de réparation, je crois.
Oui.
Qui était vraiment très, très intéressant. Oui. Vu sur le côté, mais avec
un peu sur le côté du
foot. Un peu sur le côté, mais quand même pas mal.
C'est vrai que la nouveauté, c'est un peu le théâtre, vous avez raison. Ouais, effectivement, avec le truc des supporters lensois, là, Louisette, ces gens qui ont consacré leur vie au sport, au football, et qu'ils se retrouvent sur scène pour finalement le dire, tout simplement, le dire, mettre des mots là-dessus, et je trouve que
très beau spectacle. Brice Bossavi, par rapport à ce que disaient Eric Nolot à l'instant et Pascal Boniface, l'idée qu'il y ait eu cette mondialisation, peut-être cette professionnalisation à outrance, est-ce que vous, c'est ça qui a animé aussi une association comme Tatane pour essayer de replacer le football dans quelque chose finalement d'assez simple, on va au coin de la rue et puis on joue avec un ballon?
Évidemment, en fait, c'est aussi une association qui est née en 2011, donc quelques temps après le drame de Knysna, on a senti qu'on avait envie de rappeler que le football à la base c'est un jeu, et essayer de s'écarter le plus possible un peu de tout ce qu'il y a autour pour revenir à ça, au fait de s'amuser, au fait d'être passionné, et de penser le moins possible à l'argent, à la défaite, à la victoire. Et c'est vrai que, notamment là, avec ce livre qu'on vient de faire, on avait envie d'aller parler à des gens, médiatiques ou non, et juste avoir la passion du foot qui ressort. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important à rappeler, je pense, parce que quand on voit l'extérieur, quand on suit pas très bien le foot, on voit beaucoup d'histoires d'argent, d'histoires de people,
Moi, j'ai lu récemment un vieux numéro de Miroir du football que j'avais pas lu depuis mon adolescence. Et je tombe sur un numéro de milieu des années 70, Jean-Marc Guillou en couverture. Donc ça ne rajeunit pas. Courrier des lecteurs, un type qui dit, il faut en finir avec ce football business, avec ses excès. Tiens, s'il voyait le football aujourd'hui. Donc, cette histoire du football argent, on a l'impression que c'est pas tellement la mondialisation, c'est que ça a toujours été une opposition entre une forme de purisme du football, du beau jeu, et puis en fait le football financier, mais que la mondialisation n'a fait qu'aggraver, mais que ça existe depuis longtemps.
Et par rapport à ce que vous dites sur le miroir du foot, effectivement, c'était des journalistes qui étaient un petit peu dans l'orbite du Parti communiste et qui avaient notamment en mai 68 occupé les locaux de la fédération, comme on le raconte dans un numéro de l'Équipe Magazine qu'on a fait il y a 15 jours. Et pour revenir un peu à Tatane, suite à cette occupation, il y avait eu l'émergence d'une espèce de mouvement qui s'appelait le mouvement Football pour tous, qui était un peu dans la logique de ce que dit Brice sur Tatane, sauf que c'était un mouvement qui était relativement fortement noyauté quand même par l'extrême gauche.
Et puis Tatane, c'est plus rigolo comme nom.
Voilà, il n'y a pas cette dimension politique ou noyautage dans ce mouvement-là.
Eh bien, merci à vous tous. Merci. Il n'y aura pas de mi-temps cette fois-ci. Merci Eric Nolot. Quand la coupe déborde, ça paru chez Stock. Pascal Boniface, l'Empire Foot, comment le ballon rond a conquis le monde, c'est demain aux éditions Armand Collin. Et je signale qu'on peut toujours voir Planète Football qui est paru chez Stan Kiss. C'est paru demain aussi. Doublé. Brice Bossavi, 50 idées joyeuses pour changer le foot chez Gallimard sera disponible dès jeudi dans toutes les bonnes librairies. Et enfin, Jean-Michel Brochen, pour lire le prochain numéro de l'Équipe Magazine, il faudra attendre samedi en kiosque, bien évidemment. Tout de suite, on part du côté du live. Non, il était en live d'ailleurs la semaine dernière dans le NRV, avec une partie de son crew. Il y avait Bonnie Banane, ça ne s'invente pas, Ichon et Oclou, aux côtés de Myth Sizer sur France Inter. Les femmes.
Mais que s'est-il vraiment passé pendant 2 heures dans ce nouveau rendez-vous?
Des gens qui parlaient plus se sont mis à chanter en connaissant les paroles par cœur. En disant des poèmes et...
Emballer, c'est peser, vive la sardine.
Ça a été des moments très très forts.
Comme moi.
Et voilà, j'ai un peu révolutionné, un peu bousculé tout le monde. Et à un moment donné, elle m'a dit « je t'aime ».
C'est Bio.
Oh oui,
ah,
oui,
je sais
oui.
Que c'est la même.
Et c'est la fête pour tous ceux qui détestent le Faust.
Ben vous savez quoi, moi ça me fait pas rire.
Elle était mignonne, Lio. Planète Foot, c'était aussi ce soir. Le NRV, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr écouter, podcaster l'émission, nous suivre sur Facebook, sur Twitter et Instagram avec le hashtag NRVFI. On est vraiment partout. Hein. Ce soir, la réalisation était signée Stéphane Leguenec et Juliette Medeviel. La préparation, Virginie Rosy, Corinne Valente, Benoît Lagane, Margot Page et Marie Mougin. Demain, on se retrouve 22h minuit. On sera là avec le peintre Gérard Fromanger. À ses côtés, l'écrivain journaliste Jean-Baptiste Aran. Et dans le NRV, la suite, attention danger, journalisme en terrain miné. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. À demain.